Buzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Ugramo.
Bonjour, Buzz.
Bonjour Ugramo, vous êtes le directeur artistique de musique et opéra. Je ne sais pas si on doit dire music and opera, parce que c'est écrit en fait à l'anglaise, musique.
On peut dire les deux. En fait, on peut dire les trois. On peut dire musique et opéra, on peut dire music and opera, et on peut dire musique und opera.
C'est vrai que c'est l'avantage, voilà. Ça fonctionne dans les trois langues.
Parce qu'on a trois éditions, une en anglais, une en français et une en allemand.
Alors vous avez dévoilé, effectivement, vous avez dit le mot édition.
Voilà, j'ai dit.
Puisque ce musique et opéra, ou dans les deux autres prononciations, c'est un guide international de lyrique, mais pas uniquement également, de concerts classiques.
Voilà.
Alors, c'est vrai qu'il y a un guide, il y a en même temps un côté un petit peu, finalement, agence en même temps pour trouver des concerts, etc. Donc, parlez-nous un petit peu de cette société, de cette revue, de ce guide qui a été créé en 1996. Déjà, donc, la nouvelle édition, c'est la
17e.
C'est la 17e.
17e édition, oui. Ben, en fait, le guide musique et opéra existe depuis 17 ans. Et tout a découlé en fait, du guide. Hein, c'est-à-dire, au départ, c'est la créatrice en fait, du guide, Marie-Laure de Belloportu, qui est notre présidente, qui a eu cette idée avec son mari de créer en fait un guide où on pourrait retrouver tous les programmes de musique, d'opéra, de danse également, parce que c'est enfin toute la musique classique vivante, parce qu'en fait elle s'est rendue compte que ce genre d'objet n'existait pas, ce genre de guide n'existait pas, elle était amenée à voyager souvent avec son mari, et puis le soir elle arrivait dans une ville, elle se disait bah, tiens j'irais bien
qu'est-ce
à l'opéra,
avoir,
et c'était complet, ou au concert, en disant mince, il y avait ça, j'aurais bien aimé, et puis finalement bon, de se dire... Si on avait eu l'information avant, on aurait pu réserver et puis assister donc à ce concert, à cette opéra, à ce ballet. Et donc l'idée est venue de ça, de créer ce guide musique et opéra, parce que Marie-Laure de Belloportu est une éditrice. Donc en fait, nous sommes éditeurs à la base, les éditions de Fil d'Ariane. Et donc voilà, on a créé ce guide, enfin ils ont créé ce guide, donc en 96, la première édition 96-97. Et... du guide, bah, tout est venu de là. C'est-à-dire que le guide tout de suite a été un succès, c'est-à-dire que beaucoup de lecteurs qui ont eu les informations et qui se sont dit bon bah c'est bien d'avoir ces informations, de se dire bon on peut aller à Milan, on peut aller à Berlin, on peut aller partout dans le monde. Par contre, on parle pas forcément italien, on parle pas forcément allemand.
Donc pour
comment
réserver.
Voilà, comment faire pour réserver. Alors même si on donne les informations pratiques, des numéros de téléphone, des sites internet, choses comme ça maintenant, c'est vrai qu'au départ en fait la barrière de la langue a fait que on a créé un service de réservation. Pratiquement tout de suite, enfin 2 ans après la création du guide musique et opéra, donc qui était réservé au départ à quelques happy few, enfin on a créé un club musique et opéra.
Le guide au tout début en fait c'était,
ça a été tout de suite
librairie,
international. Alors en fait oui, ça a été tout de suite vendu partout dans le monde, ça c'était un gros travail en fait de trouver des diffuseurs, et puis c'est surtout avec des partenariats avec des salles.
Ce que j'allais dire, est-ce que les salles ont tout de suite... marcher finalement cette aventure.
Oui, bien sûr, parce que ça a été un travail assez énorme. Enfin, je pense que avant de sortir le guides, vous imaginez en fait qu'on a eu, enfin qu'ils ont eu énormément de rendez-vous, je veux dire avec toutes les salles, de voir en fait si le projet pouvait intéresser déjà. Hein. Et puis en fait, bah, ça a été des voyages, ça a été des rencontres, et puis avec les salles, avec toutes les salles, pour récupérer les programmes, pour mettre ça en place. Et donc en fait, ça a été assez rapide. Et puis aussi voilà la diffusion. Donc la diffusion naturelle, ça a été les salles de spectacle elles-mêmes dans leur boutique qui se sont dit bon bah bien sûr on va diffuser le guide musique et opéra, et puis les librairies spécialisées d'une part, et aussi les librairies classiques comme enfin je sais pas si on peut citer
vous pouvez tout citer
donc en fait la FNAC des gens comme ça qui ont pris le guide en référence et donc ça dans tous les pays, c'est-à-dire partout dans le monde. Donc on a eu tout de suite une diffusion de 20 000 exemplaires donc diffusé et puis bon après les choses changent, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plus de ventes qui sont faites en vente directe, c'est-à-dire que les gens achètent directement le guide aux éditions de Fil d'Ariane, en fait tout sur notre site internet, et c'est vrai que donc la diffusion elle est mondiale et puis elle continue en fait à augmenter.
Est-ce que j'imagine, puisque quand le guide a été créé en 96, le poids d'Internet n'était pas le même qu'aujourd'hui en 2012. Ouais. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, aujourd'hui, pour reprendre l'exemple que vous citiez tout à l'heure, si on sait qu'on se retrouve à Vienne dans 3 semaines, on peut éventuellement pianoter sur son clavier et voir qu'est-ce qu'il y aura au Staatsoper. Bon, après, évidemment, il faut récupérer des places, mais on peut avoir effectivement les programmes. Donc comment le guide a réussi justement à faire une sorte de mutation par rapport à ça ?
De mutation, oui, en fait, c'est une évolution qu'on a faite. C'est-à-dire, bien évidemment, quand Internet est arrivé, quand il a pris la place qu'il a aujourd'hui, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'un guide papier est quelque chose d'obsolète ou pas, hein, puisque l'information, maintenant, elle est beaucoup plus facilement, on peut l'obtenir facilement partout. Mais on s'est rendu compte que les gens étaient très attachés au guide, parce qu'il y a une chose importante, c'est qu'un guide papier, comme le guide musique et opéra, c'est quelque chose qui se garde. C'est-à-dire, c'est comme une archive, quelque chose en fait qu'on a chez soi.
Vous pensez que c'est aussi un bel objet d'une certaine manière. C'est pas juste un bouton téléphonique.
Et non.
C'est pas juste.
Et non. Et ça a toujours été, bien sûr, en fait, l'idée de faire un bel objet, c'est-à-dire avec des graphismes,
une iconographie,
de plus en plus d'images, les plans de salle. En fait, on essaie vraiment de mettre l'accent sur un côté un peu artistique, qui correspond peut-être à l'image de la musique classique. Mais enfin, disons, c'est vrai que c'est un bel objet que les gens gardent. Et donc, c'est vrai que par rapport à Internet, pour revenir à votre question, finalement, un guide papier remplace pas forcément
un
site, parce que quand vous cherchez une information sur une ville, par exemple, bon, vous connaissez, je sais pas, imaginons, la Scala de Milan, bon, ça, tout le monde connaît. Mais est-ce que vous savez qu'il y a le Conservatorio, qui est une salle de spectacle, qui est aussi à Milan, et qui propose des concerts de très grande qualité,
de haute tenue.
Donc, c'est vrai que dans l'esprit des gens, quand on va sur Internet, on se dit, bon, on sait que, voilà, on connaît tel et tel opéra. Après, il y a plein de choses qui se passent à côté, plein de concerts qu'on peut louper. Et en fait, nous, notre idée, c'est de présenter vraiment un panorama le plus complet possible. Alors bon, je peux pas, enfin, on est déjà à 500 pages, donc effectivement, il n'y a pas tout dans musique et opéra. Mais il y a quand même une énorme partie. On a à peu près cette année, on a 400 institutions. Donc,
vous êtes sollicité, j'imagine, comme votre guide est devenu aussi en soi une institution, par des salles qui vous proposent, est-ce que vous voulez pas, ma programmation ne pourrait pas être intégrée dans votre guide?
Ah oui, bien sûr. Bon, après, ça, c'est sous forme de publicité, bien évidemment. Donc il y a des possibilités, bien sûr, mais disons l'idée c'est vraiment de présenter un panorama complet des grandes villes, mais aussi en fait des grandes institutions, et puis des tournées aussi, et puis aussi des artistes, et donc voilà. Mais c'est vrai que l'évolution du guide musique et opéra, elle s'est faite aussi avec un site internet, puisqu'on a mis sur internet le guide musique et opéra. Et le guide internet, enfin le site internet, donc a permis aussi de développer le service de réservation, puisque c'est un petit peu bon comme ça que le site vit. Hein. C'est grâce aux nombreuses réservations en fait qui sont faites sur notre site internet de places de spectacle. Donc on peut proposer aussi l'information sur notre site.
Yeah.
Est-ce que justement le site a permis de faire venir de nouveaux, je veux dire, de nouveaux fidèles ?
Et oui, c'est ça. Mmh. Oui, c'est ça qui est intéressant parce que, les lecteurs du guide musique et opéra sont des lecteurs fidèles. Internet permet d'avoir des nouveaux lecteurs, des nouveaux visiteurs, enfin, peut-être une génération peut-être un peu plus jeune, on va dire. Des gens qui sont peut-être plus à même, en fait, de fonctionner avec Internet. Et du coup, on a rajeuni considérablement les lecteurs. Et les lecteurs viennent aussi au guide, grâce au site Internet. Connaissent le site Internet, mais se disent, tiens, voilà, j'ai envie d'avoir la saison en entier sous les yeux et sans pouvoir cliquer, sans avoir besoin de regarder à droite, à gauche. C'est-à-dire d'avoir tout sous la main et tout à portée de main. Puis le guide a aussi évolué aussi, en fait, avec toute une partie. On a étoffé le guide musique et opéra avec une partie artiste qu'on avait avant sous forme d'index. C'est là depuis 2 ans, on a fait une toute nouvelle partie dans le guide musique et opéra qui est les grands interprètes. Donc on a une cinquantaine en fait de grands noms
qu'on peut suivre.
Et puis on a mis dans cette partie un peu plus de photos. On a fait
les fans de Anna Netrebko par exemple, bien ou sûr, de Simon Rattle peuvent tout de suite aller à la page et se dire tiens, où suivre leur idole, soit aux quatre coins du monde.
Oui, et puis avec en plus une entrée un peu plus spécifique sur les rôles, par exemple, pour les chanteurs. Donc, c'est-à-dire que...
Vous avez éditorialisé votre...
Voilà, on a un peu plus étoffé pour rendre encore plus attractif le guide musique et opéra. Donc voilà, Netrebko, donc vous savez que cette année, par exemple, elle va chanter les lycées d'amour, donc elle va chanter plein de choses. Et donc on a son agenda, finalement, de l'année, avec des jolies photos. Puis en plus, avec Netrebko, c'est facile d'avoir des jolies photos.
comment c'est greffé dessus donc l'activité d'agence, j'allais dire, de booking de concerts, etc. Donc c'est quelque chose qui est arrivé assez rapidement dans l'aventure.
C'est-à-dire, ça a été mis en place à peu près 2-3 ans après la création du guide. Donc en fait, au départ, c'était un club. C'est-à-dire, on s'est dit, on va effectivement donner l'opportunité à des gens de les aider à réserver leurs billets. Comme on était bien connu des salles grâce au guide, qui fait finalement la promotion de leur saison, donc on avait un accès plus facile, c'est-à-dire que les salles nous ouvraient plus facilement en fait leurs réservations. Sur certaines salles, on a eu en plus des petits coups de main, à savoir que certaines salles donc ouvrent leurs réservations, disons à date fixe. Nous, on a toujours eu un petit passe-droit, c'est-à-dire en fait on peut passer un petit peu avant.
En passant par vous, on peut parfois réussir à décrocher des sésames pour des spectacles complets, d'accord.
Bien sûr, sur pas mal de salles, enfin pas surtout bien sûr, mais c'est-à-dire sur pas mal de salles, on a ce petit plus en fait qui nous est donné par les salles. Donc ça, c'est bien sympathique. Et c'est vrai que le club est devenu en fait a eu du succès, et puis c'est quelque chose qu'on a ouvert à tout le monde. Et on a développé cette activité qui est devenue aussi une grosse activité de musique et opéra
qui fonctionne au plan international. C'est à dire que si je suis péruvien du Pérou, je peux passer par musique et opéra pour réserver une place pour aller voir
le site internet. À l'image du guide qui était en français, anglais, allemand, le site internet est en français, anglais, allemand, espagnol, et on espère plus tard dans d'autres langues. Mais après, c'est toujours un travail quand même de longue haleine. En fait, je pense que sur Cobuzz, vous en savez quelque chose.
J'ai vu sur le site aussi que vous faites aussi du conseil d'une certaine manière. Soit des gens veulent se faire un petit peu conseiller, ne sont pas des experts en musique classique ou en opéra, demandent à être. Par exemple, je pars. À Milan dans 2 mois, vous pouvez éventuellement me conseiller quelques spectacles. Comment ça
avec
fonctionne?
justement avec Internet, on a ouvert un petit peu, on a rendu plus facile peut-être l'accès à la réservation. Et c'est vrai qu'on a des gens qui connaissent absolument pas l'opéra ou qui connaissent pas du tout la musique classique, mais qui ont l'envie. Et je pense que tout le monde remarque ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui aiment la musique classique, tout simplement, qui se disent « je rêve d'aller à l'opéra, je rêve d'aller au concert, je rêve d'aller voir un ballet, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, et bon. » Et puis, qui, par exemple, étant parisien, sont jamais allés à l'Opéra Garnier, par exemple, alors que l'Opéra Garnier, dans le monde entier, c'est peut-être, sans être chauvin, mais en même temps, un des plus célèbres, un des plus beaux, et qui vont profiter peut-être d'un voyage à Venise. Ils se disent « bon, là, Fenice, Venise, allez, je vais à la Fenice, donc je demande à Musique et Opéra, voilà, est-ce que vous pouvez avoir des places? Donc, ben oui, donc on leur vend les places, et on se rend compte, enfin, avec ces gens-là, que, eh bien voilà, en fait, à l'étranger, il n'y a aucune, enfin, ils osent pousser la porte de l'opéra, donc après, en demandant, bien évidemment, conseil, donc à savoir, bon, par quel opéra je peux commencer, on a des questions, souvent, vous savez, en fait, il y a des gens qui veulent aller à Venise pour voir la Traviata, et donc, quand on leur explique, ben oui, mais ce jour-là, non, c'est l'heure du Rhin, ils disent, mais c'est quoi l'heure du Rhin, quoi? Ils ne comprennent pas qu'il n'y ait pas Traviata à Venise.
En permanence.
Voilà. Et en permanence. Et donc, mais c'est ça qui est sympathique, parce que, parce qu'en fait, on se rend compte que il y a énormément de gens qui ont besoin justement d'un petit coup de main, et puis d'un, voilà, enfin, d'une facilité pour aller, pour pousser les portes de la musique classique en général. Et donc, on a, voilà, ce conseil, donc, par rapport à ça. Et puis après, il y a des conseils beaucoup plus pointus, des gens qui vont demander, voilà, je veux telle mise en scène de tel spectacle, ou qu'est-ce que vous connaissez de ce metteur en scène-là, ou qu'est-ce que vaut cet artiste. Bon, et après, donc, on essaie de répondre, mais en même temps, c'est vrai que c'est toujours la difficulté d'imaginer avant la création ce que peut être une mise en scène, enfin, si ça concerne l'opéra. Bon, après, on a quand même plus de facilité, enfin, sur les artistes qu'on connaît quand même assez, quand même, pour recevoir leur programme, pour dire, bon, ben voilà, les carrières, etc. Mais on a toutes sortes de questions, et c'est sympa.
Vous avez prononcé le mot de club au début, vous avez dit, dans les premières années. Est-ce qu'il y a des fidèles, j'imagine, qui vous suivent depuis des années? Est-ce que tous ces voyages aussi sont en individuel? Est-ce que vous organisez
Alors, on n'organise pas vraiment le voyage, on fait que la billetterie. C'est-à-dire, alors, pour être un peu plus précis, c'est-à-dire que, comme nous sommes éditeurs, en fait, on a une dérogation, parce que la loi nous autorise, je veux dire, en fait, à faire la billetterie, mais on ne peut pas faire plus. C'est-à-dire que on est éditeur, donc on est spécialisé sur la musique classique, donc on a cette dérogation.
Vous n'êtes pas un catalogue d'une agence de voyage, quoi.
On n'est pas agence de voyage, non. Alors, on a des partenaires avec qui on travaille et vers qui on oriente, en fait, nos clients quand ils veulent vraiment le package, en fait, avec l'avion ou l'hôtel. Mais nous, limité à la billetterie, et puis notre spécialité, c'est quand même la billetterie. Et c'est déjà un travail énorme, donc on n'est pas agence de voyage réelle. En fait, on est agence de billetterie, si vous voulez, donc on a cette dérogation. Et ce qui fait effectivement une grosse partie de l'activité de Musique et Opéra, puisque, en fait, j'ai ma collègue Sandrine qui s'occupe de la réservation de 10h à 19h, des fois 20h, en fait, parce qu'on a énormément de demandes.
Musique et Opéra emploie à peu près combien de
On est une petite équipe, on est une toute petite équipe de 5 personnes. Donc, enfin, 4 personnes à l'année et une cinquième personne qui vient pour la saisie des programmes. Et donc, il est là la moitié de l'année, en fait. Mais c'est une toute petite équipe et c'est beaucoup de travail. Et donc, mais bon, on est forte équipe et sympa, soudée. Donc c'est toujours un plaisir.
Donc, des fidèles, vous disiez, vous avez des gens qui vous suivent depuis.
Ah oui, depuis le premier.
Qui sont accros à
musique et opéra.
Préconisations et à votre guide.
Voilà. Et c'est un peu nos tests d'ailleurs, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a eu des modifications, c'est-à-dire on a toujours énormément d'idées, en fait, notre directeur a toujours plein d'idées de faire différemment, de faire autrement, de faire autre chose. Et donc, en fait, on a toujours cette base, enfin, entre guillemets, de fidèles lecteurs, et qu'on va interroger en disant est-ce que ça vous dit que, voilà, par exemple, le guide autrefois était en un seul volume. Donc, c'était 500 pages, c'était un beau bébé de 2 kilos. Et puis, donc, on a eu l'idée il y a 2 ans de le scinder en 2 volumes pour faire une partie uniquement calendrier, donc là mois par mois, en fait, enfin pays par pays, salle par salle, vous avez toute la programmation, et puis la première partie où là vous avez un petit peu plus de détails sur les programmations, une partie en couleur, c'est là où on retrouve la partie interprète dont je parlais tout à l'heure, avec aussi les plans des salles, les téléphones pour la réservation. Donc cette partie là on l'a développée un petit peu justement, et on a scindé donc le guide musique et opéra en 2 parties. Et donc avant de le faire, on s'est dit bon, ça va peut-être changer les habitudes, et finalement c'était un plébiscite, puisque en fait tous les anciens lecteurs nous ont dit ah, mais c'est beaucoup plus pratique, mais pourquoi vous l'avez pas fait avant. Et voilà, mais c'était l'idée que qu'on a eue, et c'est vrai que donc depuis 2 ans il est en 2 parties. Et donc ces lecteurs là donc il y a des gens effectivement qui ont leur guide musique et opéra depuis le premier exemplaire, et qui attendent le guide chaque année, et donc qui nous font toujours les commentaires qu'il faut pour dire bon ben voilà, tiens, ça c'est sympa, ça il faut ça, etc., etc. Donc c'est un peu, finalement c'est les lecteurs qui ont fait le guide et qui l'ont fait tel qu'il est aujourd'hui. Parce qu'en fait, avec le guide aussi, nous avons 2 magazines, parce que quand le guide paraît, donc il paraît au mois mi-août à peu près, donc il est distribué tout de suite. Mais quand on le finit, donc c'est fin juin, on finit la saisie de tous les programmes qu'on reçoit de toutes les salles du monde entier, on finit fin juin, mais il y a souvent des gens qui sont un petit peu après, notamment les Italiens, nos amis italiens qui, comme la Scala dont on parlait tout à l'heure, en fait, démarrent leur saison, donc toujours en décembre. Et du coup, les Italiens se sont tous un petit peu greffés sur ça et annoncent leur saison beaucoup plus tard. Donc là, les saisons, elles arrivent au mois de septembre. Et donc, on a un nouveau magazine, en fait, qu'on envoie à tous nos lecteurs, donc qui est le complément de musique et opéra. Donc, on a un magazine, voilà, en fait, sur aussi l'hémisphère sud, puisque Opéra Australia, enfin, l'Australie notamment, en fait, il y a énormément de salles aussi dans l'hémisphère sud qui sont très intéressante. Et donc voilà.
Les théâtres Colonne, là.
Bien sûr.
En passant par l'Opéra Sydney, voilà, pendant voilà, Sydney 2.
Et qui sont quand même, en fait, des marques, je veux dire, pour toute une ville, quoi. Enfin, je veux dire, Sydney sans son opéra, l'Opéra Sydney, c'est comme la Tour Eiffel de Paris. Donc, c'est des choses importantes. Donc on avait besoin aussi de donner cette information-là. Et donc, on a ce magazine, en fait, en octobre, qui est le complément, donc qui est distribué avec le guide. Et puis, il y a aussi tous les festivals. Et ça, c'est une partie aussi très importante, puisque les festivals, là, on a également un magazine dans lequel on met les programmes, on propose les programmes des festivals, donc en avril. Et donc on essaie de sortir toujours un petit peu en avance en avril, parce qu'on a des gens qui vont acheter leurs billets, qui vont réserver leur place. Donc quand on donne le magazine avec les informations pour la réservation, en général, les gens attendent leur magazine pour faire leur circuit. On travaille aussi avec des agences de voyage, par exemple, qui se servent aussi de nos informations et qui proposent en fait des circuits entiers avec les informations qu'on leur propose. Donc c'est pour ça qu'on a l'obligation entre guillemets de proposer une information continue. Et c'est vrai que Internet aussi nous permet aujourd'hui de faire aussi la mise à jour, ce qu'on pouvait pas faire autrefois.
Oui, parce que là, une fois que les concerts sont annulés, voilà. C'est l'avantage.
Et ça, c'est aussi un travail qui est conséquent et quotidien, et parce qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup d'annulations, mais comme on est sur une partie artistique, je veux dire, ce sont des humains avant toute chose. Donc,
ils peuvent être malades.
Et qui peuvent être malades, tout à fait, qui ne sont pas que des machines.
J'imagine qu'une entreprise de la sorte, il y a toujours des nouvelles idées, il y a toujours des envies de faire évoluer. Qu'est-ce que vous avez des projets particuliers, des envies peut-être même peut-être plus lointaines révéler
beaucoup de projets. Enfin, c'est-à-dire on est en train de mettre en place des partenariats avec d'autres gens. En fait, on est toujours sur la musique classique, mais on a une idée peut-être aussi de s'associer pour faire aussi la comédie musicale, parce que ça c'est quelque chose aussi qui est en France en tout cas un parent pauvre, alors que vous traversez la Manche, je veux dire, les comédies musicales, elles jouent à égalité avec l'opéra. Donc, pas de sectarisme à musique et opéra, mais par contre, on a toujours été obligé de se tenir à une spécialité donc, qui est la musique classique, en fait, dans son ensemble. Ballet inclus, enfin ballet et danse contemporaine inclus, voilà, enfin les comédies musicales, c'est vrai que quand vous allez à Londres, quand vous allez à New York, vous allez au Met ou à Covent Garden ou au Wigmore Hall ou et puis en même temps, vous dites tiens qu'est-ce qu'il y a comme comédie musicale, donc ça c'est des choses en fait auxquelles on pense, enfin on propose aussi déjà en fait avec un partenaire, mais on essaie de d'intégrer peut-être un peu plus les comédies musicales. Après il y a toujours énormément de projets, et ce qui fait que on voudrait, mais là en fait c'est toujours des questions matérielles qui nous empêchent d'eux, mais la première partie on aimerait l'étoffer aussi, c'est-à-dire que là on se tient par exemple au niveau des grands interprètes, on a 55 artistes, on aimerait en mettre 100, mais après donc déjà là on a un livre qui fait 2 kilos, je pense que bon, si on s'arrête pas un moment, voilà, je pense qu'on peut concurrencer les bottins.
Sans problème. Alors vous, est-ce que depuis que vous êtes chez Musique et Opéra, est-ce que vous avez pu voyager un peu aux quatre coins du monde? Est-ce que vous avez découvert des salles qui vous ont plus marqué que d'autres?
Moi avant, je travaillais au Cercle Lyrique International, en fait, donc j'étais déjà amené à voyager déjà, en fait, faire des voyages immobiles quand j'avais les programmations qui défilaient au bureau. Et puis, depuis que je suis à Musique et Opéra, oui, je suis invité à droite, à gauche. Donc, j'ai eu l'occasion, enfin la chance, voilà, d'aller voir les voisins et puis des émotions, bien sûr, mais tous les jours. Mmh. Mais même, vous savez, quand on sent un programme, déjà on a l'émotion. C'est-à-dire qu'on se dit, quand on ouvre le programme et qu'on se dit, tiens, voilà, tel interprète fait telle œuvre, on s'est dit, waouh. Ça va être bien.
Ça fait vibrer.
ça va être bien. C'est le côté voyage immobile qui est aussi, enfin, je veux dire, quelque chose que permet le guide musique et opéra, puisqu'on peut pas aller partout, on peut pas tout faire. Mais en même temps, savoir que on se dit, oui, s'il vient à Paris ou si y a la même chose, c'est sûr, je vais y aller, ou même on se rattrape avec les disques ou avec les téléchargements maintenant. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller, et puis pour vous dire, en fait, une des dernières émotions, c'est d'avoir vu le Don Giovanni tout bêtement à Prague, voilà, au Stavovski Divadlo, enfin, je veux dire, qui est le dernier endroit, en fait, où on a encore la présence de Mozart, puisque c'est là, en fait, qu'il a créé son Don Giovanni, et d'entendre à Prague la version de Prague, chose que j'avais jamais entendue. J'ai dû voir pour, je sais pas, quinzaine de Don Giovanni, enfin, je veux dire, dans ma carrière, si on peut appeler ça une carrière, j'ai vu beaucoup, beaucoup de Don Giovanni. Donc, de le voir là, dans la version de Prague, c'était pour moi, en fait, une découverte. Je veux dire, c'était peut-être la 15e ou 16e fois que je voyais Don Giovanni. Et je me suis dit, ouais, c'est encore différent. Et puis, cette petite salle toute bleue, toute belle. Et puis, on se dit, il y a Mozart qui était là. Il y a un petit côté, un petit côté en plus qui fait l'émotion. Et je pense que c'est pareil, c'est une émotion qu'on retrouve aussi quand on rentre au Palais Garnier, où il y a déjà un lieu. Et c'est vrai que on devrait faire musique et opéra et architecture aussi, parce que en fait tous ces lieux sont toutes ces salles sont des lieux de mémoire, sont aussi en fait un côté patrimoine aussi, donc il y a quelque chose en fait de merveilleux, parce que finalement les opéras, les salles de concert sont des lieux de patrimoine, mais qui sont vivants, qui restent vivants. C'est pas des musées, c'est-à-dire en fait on y va tous les soirs, il y a de la musique tous les soirs, en fait il y a des événements, il y a des bravos, il y a des huées, il se passe toujours quelque chose, et ça partout dans le monde, et donc c'est ça qui est merveilleux. Mais bon, c'est la musique classique.
Donc on conseillera pour faire ce voyage immobile, pour reprendre votre expression, donc de déguster les nombreuses pages de cette édition 2012-2013, donc de musique et opéra, édité par les éditions Le Fil d'Ariane. Merci Uramo.
Merci beaucoup.
cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.